bord de la réveilleur Zinchal. Boisé sur le slam, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Shiz 94.3 pour Un Phare dans le Midi, votre quotidienne actualité. En ce mardi 18 janvier 2022, c'est Guillaume Bédard qui est encore et toujours avec vous au micro. Et comme on est mardi, j'ai la chance, le plaisir et le bonheur extraordinaire d'être en compagnie de Félix Étienne. Salut Félix, comment tu vas?
Ça va très bien, Guillaume.
Écoute, aujourd'hui, on a quand même une journée, une bonne journée d'actualité. On va parler définitivement de la situation de la COVID-19. C'est encore et toujours le dossier de l'heure, le dossier chaud, particulièrement ce qui se passe dans nos hôpitaux et dans nos écoles. On parle de délestage dans les écoles, la rentrée qui s'effectuait aujourd'hui en présentiel, des mesures différentes qui vont être appliquées dans les écoles pour tenter de conserver les écoles ouvertes le plus longtemps possible, et ce, même s'il y a plus de 50% des élèves dans une classe qui sont atteints. Donc, ça pourrait être... c'est des mesures qui sont plutôt controversées, on va en parler. Tout comme dans les hôpitaux, des mesures qui vont être annoncées plus tard, mais qui font déjà l'objet d'une fuite. On a eu accès à travers Radio-Canada à un document qui prépare les hôpitaux à un changement radical de la manière dont on approche les soins.
Ainsi que le délestage,
mais c'est parce que le délestage n'est plus suffisant dans plusieurs régions.
Décidément.
Donc, on parle d'une approche radicalement différente, de diminuer la quantité minimale acceptable de soins donnée à une personne pour pouvoir en donner à plus de gens. Donc, on s'entend, c'est des grosses nouvelles qu'on a aujourd'hui.
Tout à fait.
On va également parler de politique municipale, le dossier du tramway, le dossier de la pollution de l'air dans Limoilou, la quantité de nickel dans l'air, définitivement des très gros dossiers. Ça a bardé déjà un petit peu au conseil municipal hier, mais ça va définitivement continuer à barder. On a également des actualités politiques qui vont être en place parce que la partielle de Marie-Victorin, on la sent venir.
Ça s'en vient, tout à fait.
Oui, et dimanche, on a eu la dernière opposition qui a décidé dans quel comté, en fait, quelle serait sa candidate. Il s'agit de la comédienne Anne Cazabonne. On va la voir normalement plus tard en entrevue à l'émission. Ça devrait être très, très très intéressant. Donc, tout ça et bien plus sur les ondes d'Un Phare dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Shiz 94.3. Mais on va commencer, comme il se doit en chanson et en musique, on va aller écouter La mer à boire de Karim Ouellet et on vous revient tout de suite après avec vos informations.
Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite, et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite. Que ce qu'on mérite,
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. On écoutait La mer à boire de Karim Ouellet parce que Félix, Karim Ouellet, eh bien, sa mort est à déplorer aujourd'hui.
Effectivement, c'est une nouvelle qui a vraiment pris tout le monde par surprise ce matin. Mais effectivement, le corps de l'auteur, compositeur, interprète Karim Ouellet aurait été découvert hier soir à 22h dans le quartier Saint-Roch, dans le studio L'Unisson. On ne connaît pas davantage de circonstances sur le décès de l'auteur, compositeur, interprète, mais le SPVQ, donc le service de police de la ville de Québec, écarterait la thèse criminelle pour l'instant. Ceci dit, il va y avoir une enquête du bureau du coroner pour essayer de comprendre les circonstances du décès du jeune artiste qui n'était âgé que de 37 ans au moment de son décès. Lorsque le corps a été découvert, il n'y avait vraisemblablement, M. Ouellet était décédé depuis plusieurs heures puisque aucune manœuvre de réanimation n'a été entreprise. Ceci dit, évidemment, cette nouvelle-là a suscité un immense choc dans la communauté artistique, particulièrement de la capitale nationale, mais aussi de tout le Québec, parce que M. Ouellet, on s'en rappelle, c'est vraiment un jeune artiste qui connaissait un succès assez fulgurant, un jeune artiste de Limoilou qui avait lancé son premier album en 2011, son premier album solo nommé Plume. Depuis ce temps-là, sa carrière avait continué de toujours bien se dérouler. Deux autres albums avaient été lancés, l'album Fox et l'album 30. Il avait même remporté le prix Juno du meilleur album francophone en 2012.
Oui, donc c'est ça. C'est pas un artiste qui était particulièrement vieux. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu se dérouler cette histoire-là. Donc on va avoir une enquête du coroner ou de la coroner pour avoir des réponses à nos questions.
Effectivement.
On va se déplacer maintenant en actualité coronavirale, vraiment le cœur de notre émission aujourd'hui. Félix, tu peux commencer avec les chiffres du jour.
Oui, alors, pour les chiffres du jour, il y a 5143 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été dépistés dans les 24 dernières heures. Ceci dit, évidemment, il faut continuer de le rappeler, l'accès au centre de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires, donc on rappelle que le nombre de cas est probablement sous-estimé. Cependant, le taux de positivité, donc le pourcentage de tests positifs, est à 14%. C'est assez élevé, néanmoins, c'est beaucoup plus bas que ce que l'on voyait il y a deux semaines, alors qu'on flirtait avec les 30% de tests positifs. Donc, on peut dire que la vague semble être en cours de ralentissement, de descente des cas actifs selon les données qu'on a. Néanmoins, ça ne se reflète pas encore dans les hospitalisations puisque on a 3417 personnes qui sont hospitalisées en ce moment. C'est en augmentation de 36 par rapport à hier. Donc ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins rapidement que dans les dernières semaines. Et de ce nombre-là, il y en a 289 aux soins intensifs en augmentation de 3.
Oui, effectivement. Donc, on a une augmentation qui est un peu moins rapide, mais on a quand même un article de Héloïse Archambault dans le Journal de Québec qui nous apprend que, selon les experts qu'elle a interrogés, on n'a toujours pas de pic en vue. On parle, entre autres, de Huang Duong, qui est interniste, donc spécialiste de la médecine interne, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec, qui nous dit, et on le cite directement, « La situation sur le terrain est encore très tendue. Les cas montent peut-être moins vite, mais ils montent. » Et c'est ça qui est vraiment très, très, très inquiétant. On a également Kevin L'Espérance, épidémiologiste, qui dit « C'est difficile de prédire où on s'en va. Pour observer une tendance à la baisse, il va falloir qu'on l'observe sur plusieurs jours consécutifs. » On a également le docteur Carl Weiss, qui est épidémiologiste, infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal, le Jewish, qui nous dit « C'est sûr que ça va pas redescendre en 4 jours, on ne voit pas d'éclaircie à court terme. Au moins pour les 3-4 prochaines semaines, on va être dans cette vague-là. » Donc, c'est un petit peu ça qui est la constante. C'est oui, même si, Félix, tu vois de l'optimisme, tu vois qu'on s'approche peut-être de quelque chose. On ne sait pas, il est où le pic? Est-ce qu'il va y avoir un plateau à ce sommet-là?
Comme on en a aussi plus tard. Que ça prend une bonne dizaine de jours, voire même 2 semaines, entre le moment où on atteint le pic du nombre de cas et le pic d'hospitalisation, puis un autre délai de 2 semaines entre le pic des hospitalisations et le pic des décès. Donc, c'est à voir dans les prochains jours. On semble voir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, mais effectivement, on le rappelle, 3000 personnes hospitalisées pour la COVID-19 au Québec. Ça reste extrêmement élevé et ça nous maintient à un niveau de délestage qui est vraiment au-delà de tout ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie.
Oui, effectivement. Écoutez, on a un article de Jean-Louis Bordelot du Devoir qui essentiellement fait un fact-check sur un tweet que François Legault a émis, un gazouillis que François Legault a émis dimanche, où est-ce qu'il comparait le nombre de patients COVID aux soins intensifs entre le Québec et l'Ontario pour essayer de peut-être justifier ces mesures en disant que ben, on n'est pas si pire que ça. Il a essayé de justifier son optimisme de la semaine dernière en disant qu'il y avait 282 patients COVID aux soins intensifs, alors qu'il y en a 579 en Ontario. Cependant, quand on regarde le nombre d'hospitalisations par million d'habitants, le Québec fait piètre figure. On parle d'environ 400 hospitalisations par million d'habitants. L'Ontario est quelque part autour de 260 hospitalisations par million d'habitants. Donc, le Québec est plus haut que la moyenne du Canada, la moyenne de la France, la moyenne du Royaume-Uni et se retrouve à être tout juste en dessous de la moyenne des États-Unis.
Bien, il faut comprendre aussi que le Québec avait pris beaucoup de retard dans la campagne pour donner la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 et selon plusieurs études qui ont été faites depuis l'émergence du variant Omicron, il semblerait que la troisième dose de COVID soit vraiment très efficace pour réduire les hospitalisations de façon significative par rapport à la deuxième dose. On le sait, au Québec, c'est seulement depuis la semaine dernière que tous les adultes au Québec sont admissibles à cette troisième dose, alors que, par exemple, si on compare à ce qui se fait en Ontario, au Royaume-Uni, en France, cette troisième dose est accessible à l'ensemble de la population depuis le mois de novembre dernier.
Oui, et même si on vous encourage tous et toutes à aller prendre votre rendez-vous pour cette troisième dose de vaccin contre la COVID-19, on est quand même réaliste. Il n'y a pas des places pour tout le monde tout de suite. C'est difficile présentement quand même d'avoir une place, un rendez-vous pour une dose, mettons pour demain matin. Ça peut s'échelonner sur quelques jours, voire plutôt quelques semaines, particulièrement pour les personnes qui n'avaient pas encore leur deuxième dose, qui n'avaient pas encore leur première dose. J'ai un article ici, entre autres, qui nous parle de cette montée du nombre de personnes qui ont pris leur première dose. Oui, il y a une légère remontée du nombre de premières doses par jour. On est maintenant légèrement au-dessus de 2000 premières doses par jour qui sont données, mais c'est uniquement une remontée parce qu'on avait atteint un creux à la fin décembre.
Avec les vacances, ce n'est pas très surprenant.
Oui, non, mais c'est ça. Si on compare, l'été dernier, on parle de entre 5 et 7 000 doses par jour qui étaient données selon le graphique que j'ai ici qui nous vient directement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, relayé par la presse, un article de Henri Ouellette Vézina dans la presse. Donc, on a une remontée présentement du nombre de premières doses, mais c'est juste une remontée qui est relative à décembre. Si on compare à l'été dernier, ce n'est pas une montée qui est incroyable. Et en fait, on est présentement dans des chiffres qui sont très comparables à ce qu'on avait en novembre dernier. Donc, est-ce que les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le premier ministre, l'imposition du code vaccinal pour aller à la SAQ, à la SQDC...
Ou la controversée taxe sur les non-vaccinés.
Oui, effectivement. C'est cette contribution santé qui devra être soumise à un vote, à un projet de loi à l'Assemblée nationale. Toutes ces mesures-là ne semblent pas avoir eu un effet qui soit dramatique présentement sur le nombre de premières doses. Et selon, en fait, plusieurs experts et expertes, on pense entre autres à la docteure Marie-Pascale Pommé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ça va être très difficile d'aller chercher le pourcentage de gens qu'il reste. Les 540 000 adultes qui ne sont toujours pas vaccinés seront très difficiles à convaincre. On la cite directement, elle dit... Ils, donc ces 540 000 adultes qui restent à convaincre, constituent un petit peu le noyau des irréductibles Gaulois, si on veut. Pour ces gens, la coercition, les mesures punitives, ça risque de les braquer encore plus, de les légitimer encore davantage. C'est un effet pervers négatif. Leur positionnement est identitaire et très fortement ancré en eux.
Il faut dire aussi que parmi les adultes non vaccinés, il faut prendre en compte qu'il y a également des personnes qui sont des personnes plus marginalisées, qui sont peut-être moins rejointes par le système. On peut noter, entre autres, qu'il y a beaucoup de personnes itinérantes dans les personnes qui sont adultes, qui ne sont pas vaccinées en ce moment, ou sinon des personnes immigrantes au statut irrégulier, ou encore des personnes âgées qui vivent seules chez elles et qui n'ont pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Il faut prendre aussi prendre en compte que, oui, il y a ceux qu'on appelle les anti-vaccins, mais il y a également des personnes qui sont beaucoup plus dures à rejoindre par le système. Donc, c'est vraiment les deux types de personnes non vaccinées qu'on a en ce moment. Et c'est pas seulement au Québec, c'est un peu partout dans le monde, cette situation-là.
Oui, mais la question, dans le fond, c'est comment faire la différence entre les deux? Quelles mesures vont être capables de convaincre tout le monde? Est-ce qu'on va segmenter les mesures en disant, toi, parce que t'es une personne plus difficile à rejoindre, on va te donner certains privilèges, certains passe-droits qu'on ôte à d'autres.
C'est ce qui sera en discussion à l'Assemblée nationale, tout du moins dans les prochaines semaines.
Oui, c'est ça. C'est juste très difficile à appliquer d'un point de vue d'administration publique. Donc, on peut comprendre que le gouvernement est un petit peu dans le trouble par rapport à ça.
Ceci dit, quelque chose qui va peut-être rassurer les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, eh bien, c'est une étude qui a été réalisée par Epifor, donc une collaboration entre l'assurance maladie et l'agence du médicament en France. Et cette étude confirme que chez les adultes de 75 ans et moins, il n'y aurait pas de risque accru de souffrir de myocardite avec les vaccins à ARN messager. On s'en rappelle, l'été dernier, il y avait eu quelques études qui avaient quand même effrayé plusieurs personnes en pointant du doigt des risques plus élevés de myocardite, de souffrir de myocardite après l'injection de la deuxième dose du vaccin à ARN messager. On parlait particulièrement du vaccin de Moderna, c'était un peu moins présent dans le cas du vaccin de Pfizer. Si bien que certains pays européens, tels que la Norvège, entre autres, avaient cessé d'administrer le vaccin de Moderna. Ici, au Québec et au Canada, le vaccin de Moderna est toujours utilisé. Cependant, on avise les adultes de moins de 30 ans qu'il est préférable pour eux et elles de recevoir le vaccin de Pfizer. Bon, ceci dit, moi, j'ai reçu deux doses du vaccin de Moderna personnellement, et à part avoir fait un petit peu de fièvre après ma deuxième dose, je n'ai pas eu d'autres symptômes supplémentaires. Ceci dit, c'est un risque qui existe néanmoins, mais qui, selon cette étude réalisée en France, ne serait pas très significatif.
Bon, mais il faut quand même le souligner, le risque existe, et c'est pour ça que quand on va prendre un rendez-vous sur Clic Santé et qu'on essaye de le prendre dans une pharmacie lorsqu'on a moins de 30 ans, ça nous dit « Hey! » By the way, en pharmacie, ils ont juste du Moderna. Moderna n'est pas recommandé pour les moins de 30 ans. Veux-tu vraiment te faire vacciner en pharmacie?
Ah, ça, j'avais pas remarqué ça. J'ai pas encore pris rendez-vous pour ma troisième dose. Comme j'ai récemment eu la COVID-19, bon, j'ai pas fait ça tout de suite encore, mais je vais peut-être remarquer ça dans les prochains jours.
Oui, effectivement. On va continuer en COVID-19, mais on va s'intéresser un petit peu plus à la situation dans les hôpitaux particulièrement. Écoutez, c'est vraiment un article assez choc de Thomas Gerbet et David Gentilé de Radio-Canada. Le titre, c'est « Québec a un plan pour changer radicalement d'approche dans les hôpitaux ». J'ai lu ça ce matin pour vous. Je vous encourage fortement à en faire la lecture complète, mais on va essayer de vous en faire un résumé
quand
même.
On vous encourage également à écouter le point de presse donné par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et par la sous-ministre, la docteur Lucie Opaterné, à 13h cet après-midi.
Oui, parce que moi, je lis ça et ça m'inquiète vraiment beaucoup. Je vais le dire. Je suis rempli d'inquiétude. Écoutez, le gros du message essentiellement, c'est qu'on a un guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en courte durée en contexte de pandémie de COVID-19 qui est daté de la semaine dernière, qui prévoit 4 axes d'action et qui va bientôt être mis en application dans les hôpitaux qui sont débordés par la 5e vague. Et les 4 axes d'action, je vous les lis. 1. Ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital et accepter les risques. 2. Freiner les entrées de patients et accélérer les sorties de l'hôpital. 3. Les familles appelées à contribuer aux soins à l'hôpital ou en dehors. 4. Redéfinir la quantité minimale de soins. La qualité minimale de soins. Donc, on a Marjorie Côté-Boileau, qui est attachée de presse du ministre Christian Dubé, qui contextualise ses directives et ses grandes lignes de conduite. Et on la cite directement. Avant d'en arriver à des choix difficiles, les équipes du ministère ont la responsabilité d'outiller les médecins sur des bases éthiques et cliniques. Cela n'est pas une marche à suivre dans l'immédiat. Il s'agit plutôt d'une démarche du ministère de la Santé afin de guider les médecins sur le terrain et à les préparer à toute éventualité. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est que, éthiquement parlant, le ministère de la Santé pense qu'il est mieux de procurer des soins de moins bonne qualité à plus
Donc,
de gens.
Privilégie la quantité par rapport à la qualité. C'est ça que tu nous dis, Guillaume.
Oui, effectivement. C'est ça. On préfère le scénario A, qui est de donner des soins de moins bonne qualité à plus de gens, au scénario B, qui est de donner des soins de meilleure qualité, de faire notre mieux sur moins de gens.
Donc est-ce que l'objectif, c'est de soigner plus de patients COVID ou, au contraire, de dire on va soigner les patients COVID, mais on va arrêter de délester d'autres activités pour les patients non COVID?
C'est pas clair. C'est pas clair présentement. Tout ce qu'on a, c'est un extrait du guide, justement, qui nous dit « Il paraît éthiquement justifiable de soigner le plus de personnes à intensité plus basse plutôt que de soigner moins de personnes avec une intensité optimale et de laisser ainsi de nombreux patients sans soins. Donc, on veut le plus possible avoir... en fait, probablement qu'on veut essayer de diminuer le délestage, de reprendre des activités. Mais on s'attend dans ce guide à avoir de la résistance légale. Entre autres parce que ça viole un petit peu le serment d'hypocrate.
Oui, la résistance assez déontologique. Dans le fond, ça vient un peu à l'encontre de la déontologie des professions médicales, en fait.
Oui, parce que les professions médicales disent essentiellement le serment d'Hippocrate, qui est le serment que tous les médecins professent depuis l'Antiquité grecque, dit, commence par dire, en premier lieu, ne fais pas de mal.
Pas nuire, c'est ça, ce fameux principe-là.
Oui, en premier lieu, ne pas nuire, et ensuite, essayer de faire ce qu'on pense qui est le mieux pour le patient. Et là, ce qu'on demande, c'est activement ne pas faire ce qui est le mieux, mais plutôt de dire, je vais faire ce que j'ai le temps de faire, puis je vais passer au prochain le plus rapidement possible. On parle vraiment d'une baisse de la qualité des soins qui serait généralisée dans plusieurs hôpitaux. C'est très, 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 très inquiétant.
Et on parle aussi également, selon toujours l'article des deux journalistes, de Messieurs Gerbet et Gentilé, on vous recommande de lire, il est extrêmement dense, mais il est très complet. Eh bien, en fait, on parlerait donc de faire revenir au travail un plus grand nombre de personnels infectés à la COVID-19, mais qui seraient asymptomatiques, évidemment. On s'en rappelle, cette possibilité-là, elle avait été évoquée dans les dernières semaines, mais jusqu'à maintenant, elle avait été très peu mise en application. Bien évidemment, parce que, évidemment, si on peut faire travailler de la maison une personne positive à la COVID-19, on peut le faire. Ceci dit, il faut faire des nuances. Ce fameux protocole-là, donc, ce fameux nouveau protocole qui va être présenté par le gouvernement cet après-midi, ce n'est pas le protocole de triage avancé aux soins intensifs. On s'en rappelle, pendant la première vague de COVID-19 au printemps 2020, il y avait eu des scènes d'horreur en Italie du Nord où les médecins devaient décider qui on branchait, qui on intubait aux soins intensifs et qui ne l'était pas. Cependant, on ne serait pas à ce niveau-là, parce qu'en ce moment, ce ne sont pas les unités de soins intensifs qui débordent dans les hôpitaux, ce sont les lits réguliers des unités COVID, parce qu'en ce moment, on s'en rappelle, près de 52% des personnes qui sont hospitalisées pour la COVID-19 au Québec, en fait, elles sont hospitalisées à la base pour une autre raison, mais elles testent positif à la COVID, ce qui fait en sorte que selon les protocoles qu'on a en ce moment dans le système de santé, il faut quand même procéder à mettre un isolement accru à ces personnes-là, leur prodiguer des soins de façon différente, et etc. Donc, ce qu'on comprend de ce nouveau plan-là qui va être présenté par le gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là? Qu'est-ce qu'on fait considérant que les lits COVID sont extrêmement remplis, mais qu'à la base, ce n'est pas... Bref, c'est pas tant la COVID qui rend ces personnes-là très malades, mais c'est l'accumulation de centaines de cas de COVID au sein des hôpitaux chez les personnes malades pour d'autres raisons.
Oui, effectivement. On se souvient que même si, effectivement, il y a moins de personnes hospitalisées hospitalisées aux soins intensifs présentement au Québec qu'ailleurs, par exemple en Ontario, on est dans les champions présentement en termes d'hospitalisation par 100 000 habitants. Donc, c'est vraiment très, très inquiétant à ce niveau-là. On va aller prendre une petite pause publicitaire et musicale, Félix, et on va revenir tout de suite après. On continue à parler rapidement de COVID. On va parler de la situation dans les écoles avec la rentrée des classes qui s'est faite aujourd'hui parce que, ben, hier, c'était congé, tempête. et on va parler également de pollution atmosphérique avec le dossier du nickel et le dossier du tramway. Deux dossiers qui sont très, très, très intéressants et qui sont hautement contestés à l'Hôtel de Ville de Québec. Donc, tout ça vous revient à Un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3, tout de suite après la pause.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les lundis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Semble-t-elle pas chaleureuse? C'est décider de faire connaissance sous la pomme lumineuse pour s'abreuver de son essence. Et si tu croques à pleines dents et tu vois que cela est bon, donne-moi ton consentement pour jouir de la vie en éclosion.
De Chiz 94.3 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité en compagnie de Guillaume Bédard et de Félix Étienne. Et on s'en va en éducation parce qu'aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. C'était supposé être hier, mais foudre du vide. Essentiellement, la volonté de Dieu a voulu que ce soit pas ça.
Donc, et de mère nature aussi.
Et de mère nature aussi. Donc, on a la rentrée scolaire qui commençait aujourd'hui et qui commence dans l'inquiétude pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents.
Mais aussi un certain soulagement parce que, évidemment, les fermetures d'école, à chaque fois, ça fait aussi un gros... ça fait quand même beaucoup, un sacré casse-tête d'organisation pour les parents, qu'ils soient en télétravail ou en travail sur leur lieu de travail habituel.
Oui, effectivement. Et c'est cette espèce d'équilibre précaire-là qui pousse le gouvernement à agir. Mais vraiment, ce qu'on a comme nouvelle directive... Élisabeth Fleury du Soleil a tenté d'en faire un résumé le plus succinct possible et ça fait quand même 2-3 pages solides.
Aussi long que l'article qu'on essaie de vous résumer tout à l'heure.
Oui, donc les consignes commencent à devenir plutôt alambiquées, commencent à devenir plutôt complexes.
Donc, grosso modo, qu'est-ce que les parents d'élèves doivent savoir pour la rentrée scolaire?
Essentiellement, le problème, c'est que les parents d'élèves ne vont plus savoir grand-chose. C'est maintenant la responsabilité des parents de tester leur élève dès qu'il a le moindre symptôme, parce que la santé publique ne fait plus d'enquête épidémiologique. Elle n'ordonnera plus de fermeture de classe ni d'école. C'est le centre de services scolaires ou une commission scolaire ou l'établissement d'enseignement privé, selon le cas, qui décidera de basculer ou non une classe en format virtuel si et seulement si cette classe a plus de 60% des cas de personnes infectées, de personnes en fait isolées
à
la maison.
On s'en rappelle aussi, lorsque les élèves sont en contact avec un cas positif, les règles d'isolement, elles ont changé. Ils ne sont plus nécessairement obligés de se mettre en isolement à la maison.
Non, effectivement, ils ne sont plus obligés de se mettre en isolement parce que les parents ne seront plus au courant si ou non il y a un élève en isolement dans la classe de leur enfant, simplement parce que ben on ne leur communique plus l'information, parce qu'on ne la recense plus de manière automatique. Donc
on est plutôt avec la distribution massive des tests rapides dans les écoles, et on encourage les parents à tester leurs enfants eux-mêmes s'ils ou elles ont des symptômes le matin avant de se présenter à l'école.
Oui, effectivement. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'il va y avoir plus d'éclosions, ou est-ce que, comme le dit le gouvernement, Omicron est soudainement moins dangereux? On sait que présentement, la ventilation, tous les échangeurs d'air, tous les capteurs de CO2 qui ont été promis n'ont pas encore été installés. Donc, la solution préconisée par le gouvernement, c'est d'envoyer les enfants à l'école avec un chandail de laine, parce que la ventilation va encore se faire en ouvrant les fenêtres, même si on est au mois de janvier.
Ce qui va être plutôt compliqué pour les salles de classe qui n'ont pas de fenêtres aussi.
Oui, ce qui va être très, très, très compliqué pour les salles.
Dans plusieurs écoles, dans plusieurs grandes polyvalentes ou écoles publiques qui ont un certain âge, ben il y a beaucoup de salles de classe qui n'ont pas de fenêtres. Moi, je me rappelle, mon école secondaire, c'était une vieille école qui était bien aérée. Vieille école, je parle d'école qui date du 18e siècle, mais on pense par exemple à certaines polyvalentes en béton, ben, pas de fenêtres à beaucoup d'endroits.
Et c'est ça, il y a plusieurs classes qui n'ont pas de fenêtres ou qui en ont seulement une, et ben ça donne que c'est ces classes-là qui ont le plus de problèmes de ventilation, sans aucune surprise. Donc, ça va être compliqué, et pendant justement les périodes de froid, les périodes de neige, ouvrir la fenêtre va également être très compliqué, très désagréable, et il y a plusieurs professeurs qui redoutent déjà les tâches à venir. Parce que, justement, si on dit qu'on ferme les classes uniquement s'il y a plus de 60% d'élèves qui sont isolés, bien, ça veut dire qu'il y a un scénario potentiel où il y a, mettons, 40% des élèves qui sont à la maison. Bien, le prof, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit enseigner à la fois aux personnes qui sont en classe et aux personnes qui sont à distance, et ce,
c'est vrai
en même
que ça,
temps.
Du point de vue académique, c'est assez complexe également.
Oui, c'est assez complexe, et on a présentement une pénurie de professeurs, une pénurie d'accompagnateurs également. On a déjà un cas recensé d'une école en Montérégie qui se cherche 7 personnes pour faire de la surveillance sur l'heure du midi, sur un total de 12 postes qu'elle fournit normalement. Donc, 7 personnes sur 12 qui manquent, c'est vraiment énorme. Et donc, une des solutions qui sont préconisées par le ministère de l'Éducation, c'est de donner 2 classes à un seul prof.
Ouh là là, c'est complexe.
Oui, effectivement. Donc, on fait juste se positionner du côté des professeurs, des enseignants, des enseignantes. C'est très difficile de gérer déjà une classe. Ça fait des années et des années et des années qu'on le dit et qu'on le répète, que les classes au Québec sont trop grandes, que c'est une trop grande charge pour les enseignantes et les enseignants. Là, on voudrait doubler ça avec une potentialité d'en avoir une partie à distance, une partie en présentiel. Les enseignantes, les enseignants vont être complètement débordés. Je prévois, avec ma petite boule de cristal, une épidémie de burn-out. C'est aussi simple
Faut
que ça.
Une épidémie en plus de l'épidémie de COVID. Effectivement, ça va être un sacré casse-tête pour les enseignants. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, il y a un scientifique, le docteur Olivier Drouin, qui est le fondateur de la page web COVID École Québec, qui vient de créer une plateforme où les enseignants et enseignantes vont pouvoir enregistrer eux-mêmes le niveau de CO2 dans leur salle de classe. Ce que le docteur Drouin reproche au gouvernement du Québec, c'est que les capteurs de CO2 que le gouvernement va installer dans les salles de classe, ils viennent de plusieurs fournisseurs différents, et selon le docteur Drouin, ils utilisent des façons différentes de compiler les données, ce qui rend les comparaisons assez difficiles. Donc c'est pourquoi le docteur Drouin propose aux enseignants et enseignantes d'enregistrer eux-mêmes l'information qu'ils voient sur le terrain. On s'en rappelle, la page COVID École Québec, elle faisait elle-même le recensement de tous les cas de COVID-19 dans les écoles depuis la rentrée scolaire à l'automne 2020.
Bon, ben on va espérer que justement, on puisse avoir un petit peu de données avec ça, parce qu'on le rappelle, le ministère de l'Éducation ne compile plus les données de cas de COVID dans les écoles. C'est maintenant la job au centre de services scolaires de décider ou non s'ils ferment des classes, et ils ont le pouvoir de le faire uniquement à partir de 60% d'isolement. Pas de cas positifs, mais plutôt d'isolement dans les classes. On va se diriger rapidement en politique municipale à Québec, parce que le maire Bruno Marchand a fait l'annonce de deux plénières, deux séances de comité plénier sur deux gros sujets. Une première sur le tramway, une deuxième sur la qualité de l'air. Et la réaction des oppositions à ces deux annonces-là sont très différentes.
Donc, on peut commencer par le tramway. Commençons par le commencement.
Oui, effectivement, le tramway, présentement, c'est assez bien reçu comme comité plénier, parce que, justement, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir en débattre. Il s'agit d'un dossier qui est à peu près à 100% sous la responsabilité de la Ville de Québec. Donc, le maire Bruno Marchand vous devrait déposer la semaine prochaine ses améliorations proposées au projet.
M. Marchand avait proposé 10 améliorations pour le projet de tramway qui avait été présenté par l'administration Labo.
Oui, effectivement. Donc, où sont rendues ces 10 améliorations après 3-4 mois au pouvoir, 3 mois au pouvoir pour le maire Bruno Marchand? C'est ça qu'on va devoir savoir la semaine prochaine. Et ensuite, il va y avoir un débat avec les oppositions. Donc, autant Jackie Smith de Transition Québec que Claude Villeneuve de l'équipe Marie-Josée Savard, qui devrait changer de nom bientôt.
Effectivement.
Donc, Claude Villeneuve de l'opposition officielle. Sont très heureux et se disent très, très heureux de pouvoir exprimer leurs commentaires, tout comme Éric Ralph Mercier qui va de Québec 21, qui va lui aussi pouvoir faire des commentaires qu'il dit qu'ils vont être constructifs. Dans le deuxième dossier, c'est le dossier du nickel.
Parce qu'au-delà, la ville est beaucoup plus dans l'eau chaude, en fait.
Oui, effectivement, alors que c'est la même solution. Mais là, Claude Villeneuve de l'opposition officielle et Jackie Smith de Transition Québec, ils râlent beaucoup. Et ces deux élus-là représentent respectivement Mézeray et Limoilou.
Donc, les quartiers de la Basse-Ville qui sont les plus touchés par la problématique de la qualité de l'air. Parce qu'on s'en rappelle, selon les données qui ont été compilées par l'Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec, le taux de nickel moyen dans l'air de Limoilou serait près de 4 fois plus élevé que dans les autres centres-villes des grandes villes canadiennes, donc 4 fois supérieur à la moyenne. Et on s'en rappelle, qu'est-ce qui suscite la controverse? C'est que le gouvernement du Québec propose de quintupler la norme maximale quotidienne permise d'émission de particules de nickel. Donc, qu'est-ce que réclamaient M. Villeneuve et Mme Smith, ainsi que les organisations citoyennes? C'était que la Ville de Québec les appuie dans leurs inquiétudes et s'oppose donc à cette nouvelle réglementation que propose le gouvernement du Québec. L'opposition considère que cette réglementation-là est trop favorable à l'industrie au détriment de la santé publique. Parce qu'on s'en rappelle, les particules fines de nickel dans l'air, lorsqu'elles sont en trop grande quantité, elles sont associées à une prévalence accrue de plusieurs problèmes de santé, tels que, par exemple, des maladies cardio-respiratoires, des cancers ou même des problèmes de développement, comme par exemple de l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est selon plusieurs études qui ont vraiment pointé du doigt un lien direct entre la pollution de l'air et plusieurs problèmes de santé chroniques.
Oui, et donc, le choix de Bruno Marchand de tenir un comité plénier, c'est vu par les oppositions comme étant un report du problème, comme étant essayer de se cacher derrière une étude au lieu de prendre le leadership qui est dû à la position de maire de Québec pour défendre les citoyens et les citoyennes de la Ville de Québec contre le gouvernement.
Et ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que la consultation publique, elle se tient jusqu'au 20 février. Donc, du côté de Mme Smith et de M. Villeneuve, on voulait, en fait, que ce soit à la séance d'hier du conseil municipal que la Ville de Québec se positionne en défaveur de la nouvelle réglementation. Or, M. Marchand propose de reporter le vote au 7 février, parce que ce serait après le comité plénier qui se tiendrait le 3 février. Donc, pour M. Marchand, il dit en fait que ça va donner l'occasion à tout le monde de s'exprimer et de recevoir l'ensemble des points de vue avant de prendre position. L'opposition, par contre, elle reproche au maire Marchand qu'en reportant trop cette date-là, la Ville de Québec va manquer le temps de déposer son mémoire à la consultation publique. Et on peut supposer qu'à une consultation publique, le poids d'une institution comme la Ville de Québec, c'est assez significatif dans cette situation-là.
Oui, effectivement. Donc, on va voir quelles seront les conséquences de tout ça. On va prendre une petite pause musicale. On va aller écouter La Terre est plate par Laura Lefebvre et on vous revient tout de suite après. Chiz, 94.3, un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité.
Chillin' sur le gros snooze, collé genre spaghetti, faut se lever old school. J'suis un peu cowboy, mon amour est old school. Mais quand je monte en selle, je vais pas fausse route. On travaille comme des automates. J'espère la journée café, non les métaux automates. Chaque fois je déprime de voir qu'elle veut pas rester. Mais ça prend pas 5 minutes, puis je vois qu'elle me texte. Le réveil est doux dans la petite batterie. Montez le fucking quand t'as pique, ça je l'ai fait appris. On fait l'amour comme des machines, on connaît ma mécanique. Les deux on ne fait que je suis bon en mathématiques. Personne n'est plus sharp que moi pour faire son lit. Sa chambre c'est d'autant plus sacré et puis c'est girls only.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur À un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. On écoutait La Terre est plate de Laura Lefebvre et le début de Jean Talon par Calamine parce que on a la chance extraordinaire aujourd'hui d'être en entrevue avec Anne Casabonne qui est avec nous par téléphone. Bonjour Madame Casabonne.
Mais bonjour, Guillaume.
Bonjour, bonjour. Écoutez, on vous a en entrevue aujourd'hui parce que vous avez annoncé officiellement hier votre décision de vous présenter pour le Parti conservateur du Québec aux élections partielles dans Marie-Victorin. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui a motivé votre décision?
Ben, en fait, moi, je suis une personne qui s'intéressait au préalable à la politique. Comme j'ai un peu dit dans mon discours d'hier, je faisais des soupers politiques. C'était quelque chose qui m'intéressait, que peut-être, éventuellement, je m'imaginais en faire. Mais ce qui m'a vraiment plongée, c'est vraiment je pense que le contexte actuel de la crise sanitaire, de l'urgence sanitaire dans laquelle on est, m'a fait réfléchir sur bien des points. Et je voyais une urgence... Parce que je trouvais que, surtout par rapport au passeport vaccinal, qui pour moi est une mesure liberticide, qui n'a même pas été votée par l'ensemble de l'Assemblée nationale, était une mesure discriminatoire et appuyée sur aucune science, aucune évidence substantielle scientifique. Puis, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est, ou bien c'est vraiment un outil politique ou un outil partisan qu'on est en train d'utiliser en ce moment? Alors donc, c'est toutes ces questions-là qui m'ont poussée vraiment à aller en politique.
Donc, vous, Mme Casabonne, donc vous dites que vous êtes opposée au passeport vaccinal. Donc, oui. Grosso modo, le Parti conservateur du Québec, qu'est-ce qu'il propose? Donc, vous, supposons que c'était vous qui deviez conseiller le gouvernement sur la gestion de la pandémie. Comment vous vous occuperiez de cette situation-là?
Bien, premièrement, justement, au niveau de l'article 119 de la loi sur la santé publique, on le changerait pour que, justement, que chaque mesure puisse être votée à l'Assemblée nationale et qu'on puisse donner un appui à la mesure décidée en faveur de cette mesure-là à la hauteur de 80% de majorité. Pour que ça ait l'air quelque peu démocratique, parce que en ce moment, il y a comme une dérive démocratique. C'est sous la décision d'un seul homme qui nous a avoué il y a quelques semaines qu'il nous dirigeait à coup d'intuition. Alors donc, ça aiderait un petit peu. On changerait ça pour que, justement, l'Assemblée nationale soit impliquée dans tout le processus de renouvellement de l'état d'urgence ou de l'ajout d'une quelconque mesure, quelle qu'elle soit. Ça fait que ça serait, entre autres, une des choses qu'on ferait. Puis d'ailleurs, Claire Samson a déposé un projet de loi là-dessus présentement à l'Assemblée nationale.
Bon, ben écoute, on va continuer à suivre ça avec une très, très grande attention. Est-ce que, à part la situation sanitaire présentement, est-ce que vous avez d'autres grandes priorités, d'autres grands projets pour Marie-Victorin, qui est le comté dans lequel vous vous présentez?
Ben là, en ce moment, comme je disais hier aussi, je vais aller prendre le temps avant de dire quoi que ce soit, parce que je veux vraiment représenter les citoyens. Alors, je vais aller prendre le temps de les écouter. Ils ont sûrement des choses à me dire. Et puis, je vais prendre surtout le temps d'aller écouter ceux qu'on a moins entendus pendant la crise, ceux qu'on a un peu délaissés, les parents monoparentales, pas les parents monoparentales, mais les pères ou les mères monoparentales, les jeunes aussi, les commerçants qui sont sur le bord de la faillite. Je vais aller prendre le temps de les écouter. Et puis après, je vais pouvoir mieux être à même d'avancer quelconque engagement.
Écoutez, c'est vraiment très, très intéressant. Puis moi, je me pose la question, là, vraiment, parce que je regarde les chiffres du compilateur de l'agrégateur de sondage QC125. Le Parti conservateur du Québec est présentement projeté entre 4e et 5e dans, justement, la circonscription de Marie-Victorin. Qu'est-ce qui peut vous pousser à vous lancer là-dedans? On sait que vous avez perdu plusieurs de vos contrats comédien.
Absolument perdu zéro contrat. Hein. Ça, c'est une fausseté qui a été émise dans les journaux.
Ah
j'ai
bon?
Zéro perdu contrat. Oui.
J'étais
même pas porte-parole de Walmart. Là. J'ai jamais été porte-parole de Walmart. Absolument pas. J'étais porte-parole d'Axa Pharma, qui est une pharmacie québécoise qui paie un loyer chez Walmart. Ça a toujours été Axa Pharma chez Walmart. Fait que c'est pas Axa Pharma de Walmart. Ça n'appartient pas à Walmart. Mais moi, je comprenais bien. Ça fait presque plus de deux... En fait, c'est en fin 2020 que j'ai terminé mon contrat de porte-parole. Fait que donc, quand j'ai pris la parole, ça faisait déjà presque un an que j'étais plus porte-parole pour eux autres. Parce que de toute façon, j'avais pas le droit de me prononcer de façon politique en quoi que ce soit dans mon contrat. Alors donc, j'avais déjà terminé mon contrat, mais moi, j'ai pensé que parce qu'on m'associait encore, peut-être, dans la mémoire des gens, c'est que c'était pour ça qu'on avait écrit ça dans les journaux. Je voyais pas autrement parce que j'ai jamais reçu un sou de Walmart. Puis après, j'ai pas perdu de contrat ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai mis fin à deux théâtres que j'avais, à une tournée et puis à quelques émissions de télévision.
Mais pour continuer sur cette lancée-là, est-ce que vous craignez que justement vos prises de position politique qui sont loin de faire l'unanimité, vous pensez pas que ça risque de vous nuire éventuellement dans une, si jamais vous voudriez recommencer votre carrière dans le milieu artistique?
Ah ben là, si l'art est devenu politique, ça ça va être un choix. Ça serait triste premièrement, c'est-à-dire que on voudrait censurer des voix. Alors donc, mais ça sera le choix de ceux qui m'engageront éventuellement. Mais là, pour l'instant, même si je perds dans Marie-Victorin, que je suis convaincue qu'on va créer la surprise, hein, parce qu'on a été le seul parti d'opposition réel à la CAQ là, tout du long. Puis je suis convaincue qu'il y a des gens dans Marie-Victorin qui trouvent que les mesures vont trop loin. Et puis on a vraiment des belles choses à proposer. Fait que donc, je pense pas qu'on va perdre. Moi, je pense qu'on va plutôt créer la surprise. Mais advenant le fait que je perdais, je me représente aux élections générales. Là.
Bon, ben, alors, donc, au moins, c'est clair. Vraiment, c'était la question qui s'en venait.
Parce que moi, je veux... Oups, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, c'est ça. C'était la question qui s'en venait. Donc, vous êtes impliqué en politique. Vous n'êtes pas impliqué en politique juste pour les 6 prochains mois. Vous êtes là au moins jusqu'à l'élection générale d'octobre. Donc, c'est quoi, selon vous? On vous demande de regarder un petit peu votre boule de cristal. Ça va être quoi, selon vous, les enjeux principaux, Madame Cazabonne, pendant l'élection générale de l'automne prochain?
Ben, en tout cas, nous, ce qu'on propose, si on vote conservateur, nous, c'est vraiment la fin de l'état d'urgence, c'est l'abolition du passeport vaccinal, puis c'est une refonte du système de santé dans son entièreté. Alors, c'est ça que nous, on propose. Mais je pense que ça va être ça, les enjeux. On est en état d'urgence encore et c'est renouvelé constamment. Il y a aucune raison scientifique qui est en ce moment. Tu sais, on le voit, là, dans juste à quelques kilomètres au sud, hein, de nos frontières. Tout est libre, là. Il y a des matchs dans les stades à 70 000 spectateurs, pas de distanciation sociale, puis ils ont une couverture vaccinale moindre que nous autres. Alors, pourquoi le Québec a choisi ça? Parce que ici, M. Legault, moi, je suis convaincue qu'il est en train de se trouver un bouc émissaire pour éviter de dire qu'il y a une mauvaise gestion du système de santé. Ils sont pas capables de retenir leur personnel. Il faudrait avoir des questions pourquoi ils sont pas capables de retenir leur personnel. Le personnel fuit le système de santé public pour aller soit au privé ou changer carrément de province. Alors, il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur de ce système-là qu'il faut reconstruire, restructurer, refonder dans son entièreté.
Écoutez, merci beaucoup, Madame Cazabonne. Je rappelle que vous êtes candidate pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Marie-Victorin pour l'élection partielle qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Félix, d'avoir été avec moi toute l'émission. Et merci beaucoup à toi, cher public, de nous écouter à chaque jour un fort dans le midi, ta quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3...
Cheese! pas volé, tout ce chemin parcouru, les années de misère.
Je n'étais pas volé,
mes pertes de contrôle, mes idées de grandeur, mes envies de richesse.
Me
dis, soit le jour où j'ai basculé du côté obscur. Des histoires à dormir dehors, toujours en mauvaise posture. Mauvaise graine qui prend toujours des mauvaises décisions. Je combats mes démons, même si je passe à la télévision. Ne t'inquiète pas, paraît que je suis sur la voie de la guérison. J'ai les jointures et le cœur à la compétition. Que du trafic et des bagarres dans mon curriculum. On me dit frappe et ne regarde pas